Prendre un bain nu avec son bébé ne pose pas tant de questionnements que lorsqu'il s'agit d'un enfant plus grand. Vous aussi, vous sentez une inquiétude sur ce sujet? Vous vous demandez si vous pouvez être nu devant vos enfants? Quelle peur se cache derrière cette problématique de la nudité en famille? Peur de choquer votre enfant? Peur que cela soit inapproprié? Quelles attitudes choisir pour faire les choses au mieux? On va voir ensemble ce qu'il convient de faire.
Moi j'aime bien quand maman elle est gentille.
Quand elle est pas gentille, j'ai envie de lui mettre du caca sur la tête.
Bienvenue sur Parents en Or, le soutien parental qui combine science et respect de l'enfant. Je suis Sandra, scientifique de formation et consultante en parentalité au service du bien-être des familles. Je questionne les évidences en éducation, je recherche les nuances, je fouille pour vous la littérature scientifique. Tout ça pour défendre les intérêts des enfants et de leurs parents. Sur ce sujet incontournable des familles qui ont des enfants, je suis allée à la recherche de données fiables, de travaux scientifiques et en fait, j'ai été assez surprise parce qu'il n'y a vraiment, vraiment pas grand-chose. Je n'ai trouvé aucune étude qui traite directement de la nudité en famille, mais je vais vous parler de trois publications qui font référence à ce sujet lorsque les comportements sexuels problématiques des enfants ont été étudiés. On en parle un peu plus tard de tout ça. À part ça, je n'ai pas trouvé, en tout cas au moment de l'enregistrement de ce podcast, d'autres contenus sourcés. Bien sûr, si vous avez des données, des études ou des travaux qui parlent de ça de manière fiable dans des revues scientifiques avec relecture par des pairs, n'hésitez pas à me fournir vos sources. Du coup, on peut trouver de tout, des livres qui parlent de ce sujet, mais aussi des articles publiés par des personnes aussi diverses que nombreuses. Par exemple, ce sujet a été beaucoup repris par le discours psychanalytique ou encore par le discours religieux. Et au final, rien n'est alors réellement recommandé ni interdit. La nudité est une affaire particulièrement culturelle. Dans le livre « Géographie de la nudité », l'autrice parle de l'évident impact des religions, judéo-chrétiennes chez nous, du passage de la nudité innocente d'Adam et Ève à la nudité pécheresse à partir du moment où le fruit de la connaissance a été mordu et où Adam et Ève s'empressent de couvrir leur partie intime. De là est née la multiple dichotomie de la nudité. Le nu innocent, qu'on lie souvent à l'insouciance de l'enfance, au non-désir du corps de l'autre, et le nu associé au désir, à l'interdit et à la sexualité. On retrouve une autre opposition, notamment à partir du XVe siècle, durant la période des grandes découvertes, lorsque les chrétiens découvraient avec stupeur des Indiens nus, considérés alors comme des peuples archaïques, à l'opposé des Européens vêtus, qui se considéraient, bien entendu, comme civilisés. En s'habillant, l'humain devient un être social. En tout cas, c'est ce qui ressort souvent. Le nu est associé à l'instinct, le désir, mais aussi la perversion, l'état primitif, alors que le vêtement est associé à la raison, à la décence et à la civilité. La nudité peut être employée aussi pour son aspect négatif dans des actes d'humiliation. On retrouve, par exemple, beaucoup de représentations fictionnelles, dans des séries ou dans des films, des scènes où les personnages sont humiliés, nus quand ils entrent en prison pour être douchés entourés de gardiens, ou encore des lycéens qu'on déshabille pour leur faire passer un bizutage, pour les rabaisser avant de pouvoir être considérés comme égal. Il y a l'idée derrière ça d'être vulnérable lorsqu'on est nu, parce qu'on a nos corps qui sont exposés et qui ne sont plus protégés des yeux ni des mains. Il y a vraiment une relativité assez remarquable selon les lieux, les époques et les contextes. Être nu dans les camps naturistes ou durant les périodes New Age, c'était quelque chose, ou c'est encore quelque chose de tout à fait acceptable, voire complètement anodin, quand d'autres époques et lieux condamnaient les femmes quand elles osaient montrer leurs genoux, voire même leurs chevilles. Le poids de l'image sociale est fondamental ici. Il forge notre perception. Par exemple, on serait choqué de voir des personnes en sous-vêtements, tandis que sur une plage en plein été, ces mêmes personnes en maillot de bain passeraient complètement inaperçues, alors que les deux tenues couvrent exactement la même surface corporelle. Les vêtements ont plein de rôles différents. Le fait d'être vêtu ou dévêtu porte plein d'images et de rôles différents. Ça envoie des messages, finalement. Cela dit, et ça je trouve ça vraiment important, malgré les époques, malgré les cultures, malgré les relations diverses avec la nudité, il a toujours été assez rare que la nudité intégrale soit considérée comme majoritaire ou banale. Les organes sexuels primaires sont presque toujours couverts, même dans les tribus isolées qui couvrent peu leur corps. Pourtant, à la base, on peut se dire qu'un corps nu, c'est un état neutre. On vient au monde nus. Et on est les seuls animaux à se vêtir, finalement. Les vêtements, ils ont plusieurs rôles, comme je le disais, dont les deux principaux les plus anciens que je vais vous citer. Le premier, c'est de protéger nos corps des agressions climatiques. Le deuxième, ce serait de protéger nos corps de l'attrait sexuel. En effet, la puberté érotise les corps avec l'arrivée des caractères sexuels secondaires, la poitrine qui se développe, les poils, les muscles, etc., pour informer de notre capacité à procréer. C'est-à-dire que la puberté va développer des choses qui sont visibles pour informer qu'on est capable à ce moment-là de participer à la procréation. À partir de ce moment-là, le fait de se couvrir permet de se protéger de l'attrait sexuel et de réguler les comportements de désir. Tout ça, ça va se retrouver dans le phénomène de pudeur qui se développe, justement. Donc, chez les enfants, pour en revenir à eux, cette dernière utilité n'a pas lieu d'être. Les enfants ne sont pas censés animer d'attrait sexuel et n'ont pas nécessairement de pudeur, du coup. La pudeur s'installe donc par apprentissage essentiellement, mais aussi avec l'idée de protéger notre corps. On veut protéger notre corps quand on veut le cacher. Mais l'apprentissage se fait énormément en observant que tout le monde est habillé et que les sexes ont une image taboue, intime. Je précise quelque chose, selon ma définition à moi, la pudeur, c'est le besoin de cacher ses parties intimes et non pas l'envie de porter des vêtements. Est-ce que vous voyez la différence? La pudeur répond plutôt à un besoin de protection, alors que les vêtements ont des milliers de rôles différents. La pudeur commence à s'installer entre 4 et 7 ans, tout doucement, mais elle peut être accélérée ou initiée par la pression des adultes ou d'autres enfants, par le processus d'imitation pour faire comme les autres, par un inconfort à être nu, par exemple un enfant qui a froid ou chaud ou qui n'aime pas la texture de l'environnement sur lequel son corps se pose, par le plaisir d'être habillé aussi, par exemple des enfants qui aiment mettre des vêtements parce qu'ils les trouvent beaux, qui sont valorisants, ou par la recherche d'une expérience motrice ou sensorielle parce que des enfants vont aimer la texture ou le vêtement ou ce que ça va leur procurer comme expérience. Ou enfin, des enfants qui vont aimer tout simplement porter des vêtements comme déguisement, entre guillemets, pour se mettre dans le rôle de quelqu'un d'autre ou pour tout simplement se sentir jouer à quelqu'un d'autre, faire semblant, etc. Donc avant cet âge, avant 4, 7 ans environ, bien entendu, il est courant que les enfants aiment être nus ou en sous-vêtements à la maison ou même à l'extérieur pour les plus petits. Mais même après cet âge-là, dans un environnement familial sécurisé et sain, où l'attrait sexuel est absent, bien entendu, l'enfant il peut continuer à préférer rester chez lui sans vêtements ou avec peu de vêtements, parce que le confort l'emporterait face au but que remplissent les vêtements. Donc dans cette histoire de nudité, quel que soit finalement le contexte, mais particulièrement en famille, ça va faire référence forcément au concept de pudeur et d'intimité qui doivent être respectés. On n'a pas tous le même niveau de pudeur. Chacun a sa propre sensibilité, même les enfants. Certains n'auront aucun souci à traîner nus à la maison jusqu'à 8 ans, comme on l'a vu, quand d'autres ne supporteront pas qu'on les voit nus à 4 ans. Par contre, j'aimerais faire une petite aparté. Quand ça arrive vraiment tôt, quand la pudeur s'installe vraiment très tôt, avant 4 ans par exemple, j'ai tendance à proposer d'avoir un œil plus large pour éventuellement déceler un stress particulier, quelque chose qui pourrait expliquer cette pudeur précoce. Pourquoi l'enfant qui n'est pas censé avoir honte de son corps ou avoir peur que l'on touche son corps, pourquoi est-ce qu'il développerait une pudeur aussi précoce? Peut-être qu'il n'y a évidemment absolument rien derrière et c'est simplement un enfant qui a une sensibilité particulière sur son corps, mais je trouve ça toujours intéressant en tout cas de se poser la question. Alors la nudité en famille, normale ou pas normale? Bonne idée ou mauvaise idée? En réalité, il n'y a pas de réponse claire. Ça va dépendre du contexte familial, de chaque membre de cette famille et de comment l'enfant a grandi, dans quel contexte il a grandi. Un enfant qui voit ses parents nus depuis tout petit, il l'aura intégré comme quelque chose de normal. A l'inverse, si votre enfant ne vous a jamais vu nu et que tout à coup vous exposez votre corps, ça peut l'interpeller, ça peut le gêner, voire même transgresser sa limite. Le concept de pudeur, il s'applique dans les deux sens. Montrer son corps peut être dérangeant, tout comme voir le corps de quelqu'un. Cette exposition, elle doit être consentie de façon éclairée. Éclairée, ça veut dire qu'on peut supposer qu'un enfant de 3 ans qui n'a jamais vu le corps nu de quelqu'un et que cette personne n'est pas un de ses parents ou un de ses frères et sœurs, ne peut pas forcément consentir de manière éclairée, avec discernement, à être exposé au corps nu d'un adulte qu'il connaît peu ou qui, en tout cas, qui ne fait pas partie de sa famille, comme je le disais. Je vous offre une pause de quelques secondes dans cet épisode de podcast, simplement pour vous informer que vous trouverez sur mon site ou dans le lien en description de cet épisode tous les services que je propose aux parents et aux professionnels de l'enfance. Je peux peut-être vous aider, n'hésitez pas à y jeter un œil. On retourne maintenant à l'épisode du jour. Il faut noter quand même un truc assez intéressant, et qui vient de tout ce que je disais au niveau culturel, c'est que la nudité, c'est devenu une violence, même dans le code pénal. On n'a pas le droit d'exposer son corps. C'est devenu une violence par sa rareté et par son caractère ambigu, selon moi. Oui, parce que quelque chose qu'on voit jamais, ça peut être quelque chose de violent une fois qu'on le voit, surtout si socialement ça a été construit comme tel, et ce qui est le cas dans nos sociétés occidentales. Et on l'a vu, on couvre nos corps pour des besoins thermiques, mais aussi parce que l'accès facile au corps et l'accès facile aux parties intimes de l'autre peut être source de dérives et de risques, surtout si le premier point est présent, la rareté. Parce que ça va attiser l'attraction, la curiosité, le voyeurisme. Ces risques-là ne concernent pas les enfants envers des corps d'adultes, mais plutôt des adultes entre eux et des adultes envers des corps d'enfants, malheureusement. Donc ne vous inquiétez pas du tout si votre enfant aime être nu à la maison et ne vous inquiétez pas du regard de votre enfant sur votre corps, qui sera un regard forcément naïf et innocent. Par contre, il arrive quelque chose d'assez intéressant dans les familles où on a l'habitude d'être nu à la maison. Avec des tout petits enfants, ça va pas poser de problème ou ça va pas questionner de manière particulière. Par contre, l'enfant, il va peut-être, en grandissant, s'intéresser à votre corps en même temps que sa curiosité va naître sur ce sujet-là. Par exemple, il peut être amené à vous demander de lui montrer en détail votre sexe, voire même de le toucher, etc., de manière tout à fait saine et par simple curiosité finalement. Pour moi, il s'agit ici d'une limite pour ce qui est de toucher les parties intimes principales, parce que associer nos parties intimes principales au toucher volontaire, ça entre dans le champ d'une intimité particulièrement poussée, qui n'est pas de l'ordre du lien parent-enfant. Ça rentre plutôt dans quelque chose de l'ordre de la sexualité et de la reproduction. On peut tout à fait proposer à l'enfant de regarder des images d'anatomie sans avoir à passer par la nôtre, même si je comprends encore une fois la question naïve et tout à fait de simple curiosité que les enfants peuvent nous poser. Il y a aussi un élément qui est important dans les familles. Prenez également en compte le message que vous allez transmettre à votre enfant en lien avec votre corps. Si être nu, ça vous renvoie à un rapport négatif avec votre corps, le fait de se sentir moche, grosse, ou de se dire « regardez-moi ces seins horribles », etc., ça peut influencer le regard de l'enfant et de l'adolescent, surtout sur son corps, s'il intègre, en fait, en vous voyant faire tout ça, ou en tout cas en ayant compris que vous n'aimiez pas votre corps, et il va peut-être intégrer comme message qu'un corps qui ne rentre pas dans les critères de beauté idéale, c'est un corps qu'on ne doit pas aimer ou qui ne doit pas être exposé ou pas montré. En tout cas, à partir du moment où l'un de vous est gêné, il s'agit tout simplement d'une limite. C'est important de marquer des limites qui respecteront le confort de chacun. Il y en a qui vont préférer fermer la porte de la salle de bain, que ce soit pour protéger notre corps ou pour protéger la vue des autres sur notre corps-là. On peut tout simplement ne plus être nu si ça gêne un des membres de la famille, tout simplement. Par contre, un enfant qui est petit et qui va être gêné, il va pas forcément savoir le verbaliser. Je vous invite à observer l'évolution de vos enfants sur ce sujet. Tout petit, il sera sans doute totalement indifférent à sa nudité ou à la vôtre. Mais, tout doucement, vous allez peut-être observer des gènes de pudeur qui s'installent. Et ces signes-là, ils seront pertinents de les prendre en compte et d'adapter vos tenues et celle de vos enfants à cette évolution-là. On peut commencer à cacher nos parties intimes, ou laisser l'enfant se laver seul, se laver son corps, ou même se laver simplement ses parties intimes seules, ne pas entrer dans sa chambre sans frapper, etc., etc. Tout ça, ça doit être continuellement questionné avec le temps et l'arrivée de l'adolescence qui arrive tout doucement, souvent plus tôt qu'on ne le croit. Pour savoir où mettre la limite, globalement, ce que j'aime proposer, c'est d'imaginer une ligne continue qui irait du vert vers le orange, puis vers le rouge. Dans le vert, on pourrait y classer tous les comportements et échanges neutres, comme le fait de donner des informations sur l'anatomie de notre enfant de 3 ans qui nous pose des questions, etc. La zone orange, elle regrouperait plutôt les comportements et les échanges avec l'émergence d'une gêne ou d'un malaise pour l'un des deux qui échange. Que ce soit le parent gêné parce que l'enfant, par exemple, il commence à poser des questions sur les organes sexuels du parent, ou l'enfant qui est gêné par le fait que le parent lui lave ses parties intimes, par exemple. Tout ça, c'est que des exemples, et il y en aura forcément plein de manière différente chez toutes les familles différentes. Mais j'ai tendance à proposer de stopper ce genre de moment par prévention lorsqu'on voit déjà s'installer la pudeur chez notre enfant, ou simplement lorsque nous, nous-mêmes, on ressent une gêne, en fait. La zone orange, c'est finalement la zone des limites que l'on pose et au-delà de laquelle on ne va pas. Ou en tout cas, on peut se poser des questions sur l'intérêt d'aller plus loin. Et enfin, la zone rouge, ce serait catégorisée par les interdits, les comportements avec une arrière-pensée, avec un but précis. Et tout ça, évidemment, cette zone rouge-là ne relève évidemment pas de relations saines et normales de parents à enfants dans des familles normales, dans lesquelles les relations sont saines. D'ailleurs, c'est une inquiétude, je pense, qui est chez beaucoup de parents, qui est assez taboue. Est-ce que si je suis nue devant mon enfant, ça peut le choquer, ou est-ce que ce sera considéré comme inapproprié, incestueux, si les autres le savaient, etc. Il y a une peur un peu taboue aussi des parents de se dire, est-ce que si je fais ça, je fais quelque chose d'incestueux sur mon enfant, alors que ce n'est pas mon intention. Comme on l'a vu, en réalité, si ça s'inscrit dans des comportements neutres, sans arrière-pensée, ni recherche de plaisir ou autre but interdit, s'il n'y a pas de gêne particulière pour personne, alors non, on ne peut pas qualifier ça de comportement inapproprié. Donc face à cette inquiétude-là, pour le confort de tout le monde, je propose plutôt par prévention et pour le confort de chacun, comme je le disais, d'éviter l'exposition des corps nus au moment des premiers signes de gêne et de pudeur. Par contre, il est important de se demander quelle normalité mon enfant est-il en train d'intégrer. C'est là que les trois publications scientifiques dont je vous ai parlé précédemment vont entrer en jeu. Dans une étude préprint de septembre 2022 qui se focalise sur les comportements sexuels problématiques des enfants, le cas de la nudité est abordé. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui est défini comme comportement sexuel problématique des enfants ? Ce sont des enfants de moins de 12 ans qui vont vouloir toucher les parties intimes des autres, les regarder ou montrer les leurs, voire y introduire des objets ou tout autre comportement néfaste sur soi ou sur les autres. Dans cette étude, il y est dit, et je traduis pour vous, être témoin de parents engagés dans des activités sexuelles, prendre le bain ou la douche avec un parent ou être exposé à la nudité dans la maison semble augmenter les comportements sexuels problématiques chez les enfants. Et il cite deux études, Bonheur et collègues de 1999 et une étude de Levesque et collègues de 2010. Je suis donc allé voir les deux études citées. D'abord, celle de Bonheur. Dans cette étude qui traite aussi des comportements sexuels problématiques des enfants, il n'y a qu'un seul passage qui fait référence à la sexualité, notamment en famille, et je cite en français, « Significativement plus d'enfants ayant des comportements sexuels problématiques ont été témoins de comportements sexuels humains par rapport au groupe témoin. » Il n'y a absolument rien d'autre de précisé, ni sur des comportements dans la famille, ni concernant la nudité. Dans l'étude de Levesque, les résultats sont déjà un peu plus intéressants. Cette étude porte sur les comportements sexuels problématiques et sur les comportements externalisés des enfants qui pourraient avoir une même cause. En tout cas, c'est ce qui est proposé dans l'étude. Et ce que les résultats suggèrent, c'est que les enfants ayant vu leurs parents avoir des comportements sexuels, les enfants pouvant passer une partie ou l'entièreté des nuits dans le lit de leurs parents, les enfants ayant vu un adulte nu, et les enfants ayant déjà pris un bain ou une douche avec un parent avaient entre 2 et 4 fois plus de risques de comportement sexuel problématique. Alors attention, il manque énormément de détails importants sur tous ces comportements-là qui ont été étudiés, comme la fréquence, le contexte, la communication dans la famille, etc. Et surtout, bien entendu, il s'agit d'un lien et non pas d'une causalité avérée. D'ailleurs, ils le disent bien dans leur conclusion, ils mettent en garde sur les nuances à apporter. Et je cite pour vous, « Ces données ont sans doute différentes significations selon le contexte social et culturel. Il est important d'être prudent sur ces interprétations, notamment par exemple sur le lien entre cododo et comportement sexuel problématique. » Et effectivement, selon la culture, on va trouver problématique des choses et pas d'autres, et inversement dans d'autres cultures. Sans doute, par exemple, qu'un enfant qui se promène presque nu à 10 ans ne posera pas de questionnement dans certaines cultures, alors que dans d'autres, on pourrait pathologiser ça. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant d'essayer d'expliquer pourquoi il pourrait y avoir effectivement ce lien, pourquoi certains comportements familiaux pourraient effectivement augmenter les risques de comportements problématiques sexuels de l'enfant. Et c'est là qu'on en revient à la question que je vous proposais, quelle normalité mon enfant est-il en train d'intégrer ? Par exemple, si pour lui, il est normal et banal de voir des parties intimes ou de les exposer, même sans intention particulière bien sûr, et tout ça sans nuance spéciale, il va sans doute naturellement et certainement de façon naïve reproduire ça dans d'autres contextes, à l'école, avec les copains, etc. Parce que pour lui, ce sera tout simplement normal. Ou encore, la curiosité, l'amusement pourrait l'emporter sur des règles, des mœurs qu'il n'aura pas intégrées et donc il pourrait se laisser la liberté d'aller explorer cette curiosité et de se laisser le droit d'aller faire des choses sur lui ou sur les autres tout simplement parce que ça l'interpelle pour une raison ou une autre et qu'il n'a pas intégré le fait que là c'est une limite qu'il ne peut pas s'autoriser. L'accompagnement avec une forte communication auprès de l'enfant est absolument fondamental pour qu'il intègre et qu'il applique en même temps qu'il grandit les règles culturelles, leur signification et l'importance du respect de soi et des autres. Et les parents vont jouer un rôle important, c'est-à-dire que si pour eux ça ne pose pas de problème que dans la famille, dans la maison, on se balade sans vêtements ou sans trop de vêtements, tout en respectant chaque membre de la famille, bien entendu, eh bien, il est aussi important que les parents transmettent aux enfants que ça ne se fait pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment et avec n'importe qui. Je finirai en disant qu'il n'y a pas de schéma idéal entre les familles décomplexées et les familles pudiques. Être pudique, c'est pas en soi un problème, si ça ne ferme pas les discussions sur le sujet du corps et de la sexualité. Il est important de permettre aux enfants et aux adolescents de pouvoir discuter le plus ouvertement possible, sans tabou, du corps, de la puberté et de la sexualité avec leurs adultes de confiance préférés que sont leurs parents normalement en général. Comment parler de sexualité à nos enfants? Comment les aider à développer une relation saine avec leur corps et celui des autres? On veut tous que nos enfants, puis nos adolescents, aient des comportements responsables en matière de sexualité, qu'ils sachent se protéger, respecter leur consentement et celui des autres, mais aussi qu'ils évitent par exemple les grossesses précoces ou les infections sexuellement transmissibles. On veut qu'ils soient heureux et épanouis, tout en sachant comment éviter qu'ils subissent eux-mêmes des abus sexuels de la part des autres, par exemple. C'est une peur très fréquente chez les parents. Je vous livre dans un atelier basé sur les connaissances scientifiques et les recommandations des organismes officiels, ce qui est le plus simple et le plus efficace pour préparer nos enfants à leur future vie amoureuse et sexuelle. Cet atelier, je l'ai fait à la destination des parents, mais aussi des professionnels de la petite enfance qui vont être amenés à discuter, par exemple, de ce sujet de la sexualité avec les enfants ou les élèves des classes. Vous le trouverez en suivant le lien qui est dans la description de cet épisode. Pour soutenir ce podcast et promouvoir le respect de l'enfant, n'hésitez pas à mettre une note maximale sur votre plateforme d'écoute, à commenter, vous abonner et à partager ce podcast.